Vous écoutez
RMC.
3-4
RMC. 9h midi.
Pardon, me touchez pas.
Tel que c'est parti, ils tiendront les délais.
Les grandes gueules du sport.
Et le match commence. François Pinet.
Il est 10h08, vous écoutez RMC en direct jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, David Bouillet, Marie Martineau, Denis Charvet, Christophe Cessieux ce matin, les grandes gueules du sport qui sont également à retrouver en podcast, vous le savez, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre débat sur les mesures contre les violences et contre les chants homophobes dans les stades, dès maintenant sur l'appli RMC. Dans 30 minutes, la punchline des GG signée de l'entraîneur des frères Lebrun, parce que ce soir événement 21h, le duel très attendu entre Alexis et Félix Lebrun à Montpellier. Chez eux. Dans une heure, les GG passent la seconde. On va revenir sur le nouveau cadre de vie exposé par Fabien Galthié pour les joueurs du 15 de France. Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais juste avant, justement, à 10h45, c'est Christophe qui va nous présenter sa nouvelle chronique que le monde entier nous envie. Tu vas piquer ta monde crise de la soixantaine.
D'abord, je n'ai pas 60 ans et je ne pique pas de crise. Je dis des choses,
bientôt,
c'est tout.
C'est bientôt 60 ans.
Non, pas du tout.
Je ne
suis pas sûr de les atteindre. Je ne suis pas sûr de les atteindre.
Comment je les atteins?
Bon, t'as vu l'état dans lequel tu es.
Donc tu vas nous parler de...
Regarde sur nos écrans, on était là avec Marie, on était... Ça y est, il y a de la neige, ça y est, les épreuves de ski ont repris, c'est pas magique, ça, on parlait tout à l'heure de la piste David Douillet au Menuire, Denis Charvet va aller faire du ski, et puis il y en a un autre qui arrive là, qui revient, c'est la légende absolue du ski mondial, Hirscher, il s'appelle, oui. Hirscher, il est autrichien, maintenant il est hollandais, parce qu'il y a plus de pistes noires en Hollande, et bien figure-toi qu'il revient au ski et qu'il va être protégé pendant toute la nuit. Il y a presque des mecs qui vont le pousser dans les descentes pour espérer qu'il remporte à nouvel les cours. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure.
À 10h45, la crise de la soixantaine, tiens, justement, tu parlais du retour de la neige, Zolden en Autriche, commenté par Léna Marjac, qui adore aussi cette odeur de poudreuse. Salut Léna.
Salut François, salut à tous.
Après, on va retrouver Marcel Hirscher, ça sera demain hein, l'événement. Il y a les dames aujourd'hui pour le géant. Et là, il y a déjà un forfait de poids.
Oui, un très très gros forfait parce que c'est la tenante du titre à Zolden en Autriche. C'est celle qui a remporté le gros globe l'année dernière. C'est la Suissesse Lara Gut Berami. Elle a fait la reconnaissance ce matin, mais après ça, elle a annoncé ne pas être à 100%. Alors, elle s'était fait mal à un genou gauche pendant la préparation estivale. Elle a été malade également sur ces derniers jours. Donc voilà, elle n'a pas voulu prendre de risques. Mais même si elle n'est pas là, les grandes skieuses, les grandes géantistes sont bien présentes. Et celle qui est partie avec le dossard numéro 1, c'est l'américaine Michaela Schifrin, et pour l'instant, eh bien, elle est devant dans cette première manche du géant de Zolden. Et il y aura trois Françaises à suivre. Déjà la première, elle sera avec le dossard 14, ce sera dans quelques instants. C'est Clara Direz, un petit peu la leader de cette équipe de France de géant. Et puis derrière, on découvrira une jeune skieuse, June Brand. C'est son premier départ en Coupe du Monde, donc il faudra surveiller ça. Dossard 44 et puis dossard 60, c'est la Française Kathleen McFarlane, 22 ans.
Merci beaucoup Léna, on te retrouve tout à l'heure pour donc
on parle du retour de Lin7 aussi hein.
Pourquoi pas.
Ce sont des rumeurs, oui.
À tout à l'heure Léna.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
C'est un week-end exceptionnel sur l'antenne d'RMC pour tous les amoureux de foot avec les derbies, Lens-Lille, Nice-Monaco, le Classico, ce soir Real-Barça et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, OM-PSG. Dimanche,
cherchant de Kougoff.
20h45, OM-PSG. Des invités toute la journée d'ailleurs demain dans les shows RMC. Ravir Pastore, José Anigo chez Stephen Brun dans Stephen Brunch. Mevlut Erding à 17h dimanche. Et puis un Bartoli Time spécial OM-PSG dès 19h pour lancer cette grande rencontre. On sera notamment avec Benoît Chéroux. OM-PSG, justement, où les stars sont sur le banc. Roberto De Zerbi côté OM. Luis Enrique côté PSG. Est-ce que c'est passionnant ou est-ce que c'est décevant? Dans le coin droit, la team décevant représentée par Denis Charvet, David Douillet et Christophe Cessieux. Dans le coin gauche, la team passionnant, seule contre tous, mais elle adore ça, Marie Martineau. Le petit sondage avant de débattre les amis sur le compte X des grandes gueules du sport, eh bien pour l'instant, ça donne un avantage à Marie Martineau et à la team passionnante. 57%.
C'était quoi la question? Est-ce que le classique est passionnant ou est-ce que, parce que la question n'est pas bien posée en fait, je trouve. Je suis désolé.
François, mais on
comprend pas la question. Luis Enrique, deux Herbies.
Je suis sûr que les gens.
Est-ce que c'est passionnant et décevant, c'est ça?
Est-ce que c'est passionnant ou décevant que les véritables stars de cette
Ligue? Voilà, les stars, c'est les coachs.
Tout le monde a compris, hein.
Mais oui, tout le monde a compris. Mais je suis pas sûr que nos éditeurs aient tout compris.
Mais si, tous.
Ah, il remet en cause déjà.
Tu remets en cause.
C'est pour ça que Marie gagne. Autrement, c'est pas possible.
Qui ignore méprise.
Tiens, alors, on va pas donner la parole à Christophe, on va la donner à Denis, qui fait partie, parce qu'il a très bien compris la question, Denis.
Non, mais le problème,
pourquoi tu dis que c'est décevant?
Mais décevant parce que moi, je suis un passionné de ballon et je suis toujours du côté des joueurs, plus que des entraîneurs. Alors, les entraîneurs, t'en as besoin, mais avant tout, ceux qui font le spectacle, qui font le show, c'est les joueurs. Et là, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de stars. Il n'y a plus de Neymar, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Mbappé. Je suis désolé. Mais oui, c'est ce que je te dis.
Bah oui.
Donc je veux dire, je dis c'est décevant parce qu'aujourd'hui on fait de deux entraîneurs des stars qui pour moi ne sont pas en fait. La vérité, c'est que Luis Enrique, ça n'est c'est pas une star.
Oui,
c'est une star de la communication. Là, je te le dis.
Bah, il a gagné la Ligue des Champions.
Très fort. Ouais, il a gagné, mais avec
une équipe qui on n'a pas envie d'aller boire un coup. Quoi.
Ça, c'est ton
avis. Personnellement, ce mec-là me sort par les couilles. J'ai même pas envie de le voir. Qui dégage?
Non, mais pour revenir au débat, c'est qu'on en est réduit, si tu veux. Moi, je dis décevant parce qu'on en est réduit à monter la sauce entre deux entraîneurs.
T'as vu la une de l'équipe, hein, ce matin?
Oui, je l'ai vu, c'est pour ça. En plus, c'est encore plus choquant. Parce qu'on les met de, en avant, tu dis, mais c'est pas ça le foot, le sport quand même. Le sport, c'est Neymar, Messi, Mbappé, c'est les mecs qui nous font rêver.
Mais ça, on a essayé, en fait, Denis. C'est bon, on a vu, et c'était nul. Alors, franchement, c'était nul. Était le premier à avoir dit pendant des années que c'était nul.
C'est pas ça le foot.
Là, en fait, ce que t'as peut-être pas pigé, c'est que ces deux coachs-là, ils représentent le collectif. On parle de ces coachs parce que on se remet à parler d'une entité entière et non pas justement d'une starlette ou d'une autre qui joue un coup d'un côté, un coup de l'autre, parce que de toute façon,
je change. Mais t'as pas de grand club sans grande star, je suis désolé, arrête de dire ça. Tu donnes raison à Luis Enrique.
La plus grande époque Real Barça, c'est pas l'époque où il y avait Mourinho contre Guardiola, c'est pas cette grande époque-là.
Mais tu sais qu'il y avait dans l'équipe, il y avait Messi, il était déjà là.
Ouais, mais on parlait des coachs.
Oui, mais c'était les meilleurs classicos, c'est aussi parce qu'il y avait deux entraîneurs très charismatiques.
Il y avait des stars aussi sur le terrain.
Oui, mais là aussi, il y a des stars. Il y a aussi des stars au PSG.
Ton argument, il tiendrait si les deux étaient très différents dans la gestion du jeu, dans la stratégie, etc. Sauf que on peut les mettre dans un miroir, c'est la même image. Ils se regardent. Ouais, ils ont le même style. Ils ont
pas complètement quand même.
Moi je trouve que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est tout. Ils s'estiment l'un et l'autre. Ils se renvoient le truc de meilleur entraîneur du monde, etc., etc. Enfin, ils sont fades, aseptisés et aseptisants. Voilà, moi je trouve pas qu'il y ait
de relief.
Luis Enrique, tu peux pas dire qu'il est fade.
Il
est tout sauf fade.
Il divise. Hein.
Pour moi, ce mec a tout compris de la communication aujourd'hui.
Dans sa stratégie.
Ah bon?
Non mais lui par rapport à lui si tu veux
tout compris la communication.
Mais sauf que ce qu'il fait, il le mène avec brio quand même. Le mec, il enfume tout le monde.
C'est-à-dire de dire, je vous emmerde, vous comprenez rien, vous êtes des incapables, ça c'est la bonne communication.
Et bien, sauf que le mec, il revient.
C'est la bonne communication.
Mais le mec, il retend. Ben, je suis désolé. Les mecs, ils reviennent, les journalistes, ils retendent le micro, il n'y a pas de problème. Et lui, il dit, moi, c'est, il dit ce qu'il veut, en fait.
Et parce qu'on est une petite corporation, moi, je serais d'avis de même pas lui poser de questions, ne plus lui poser de questions.
Voilà, je suis d'accord.
Ah ben, moi, je suis d'accord aussi. Et après, quand il dit, moi,
évidemment, les journalistes, ils veulent pas les chiens, et on va aller poser le micro, parce qu'évidemment, il faut avoir l'avis éclairé de Luis Enrique.
Tout ça, pourquoi je dis ça? Je pense que tout ça est pesé. C'est-à-dire qu'il ne dit pas les choses gratuitement, Luis Enrique. Tout ce qu'il dit, c'est calculé. C'est calculé pour lui, dans son sens à lui. C'est ça qui est brillant.
Dans son sens à lui. Quand il explique à Mbappé qu'il faut qu'il défende, quand il dit tu seras meilleur, tu défends, il ne le fait pas. Dans son intérêt à lui.
Mais quand tu vois le sujet que tu le vois, tu dis mais c'est pas possible.
Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de sa communication?
Vous avez avez envie de voir. Vous êtes ravi de voir ça demain, de voir les deux qui vont gesticuler sur la pelouse. C'est ça pour vous qui vous
file. Non, moi j'ai hâte de voir ce que le plan tactique, le plan de jeu va donner.
Les fans de foot, l'envie de regarder les matchs. Foot, ils observent les matchs de Luis Enrique et de Zerbi. Ils aiment aussi la tactique, l'équipe qu'ils vont mettre en place.
On en est venu, quoi. Désolé, mais un match de foot, moi, ça a toujours été les envolées d'une star ou de l'autre, que ce soit à la grande époque de l'Olympique de Marseille, quand Papa marquait ses buts incroyables, que Waddle faisait ou Messi ou Mbappé, aujourd'hui qui existe,
un match de foot,
mais
tu vends qui,
pas deux entraîneurs là,
mais t'es obligé parce que tu ne peux vendre que la preuve, comme le dit François, ils sont en première match de l'équipe
parce qu'ils ont pas, ils ont plus que des starlettes, des petites starlettes aujourd'hui, mais c'est ce genre de match qui fabrique les vraies stars du foot. Demain soir, peut-être qu'on va avoir un duel incroyable, qu'un Barcola va se révéler comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'Europe, et pareil de l'autre côté.
Vous trouvez pas que les conférences de presse, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs,
n'ont aucun intérêt?
On n'apprend rien.
Rien, que dalle.
C'est fade.
Ça fait des années quand même.
La même chose. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes tourneurs de phrases, c'est le même phrasé, à croire qu'ils font du par cœur. Mais tous, c'est de la langue de bois en permanence. On n'y apprend absolument rien. Et ensuite, il y a des jeux de style, des jeux corporels. C'est des jeux d'acteurs, où,
complètement.
On les voit tout, on les voit faire la gueule.
Ils font le show. Ils font le show.
Ils font du show. C'est des acteurs, voilà, c'est tout.
Mais en quoi c'est décevant?
Ils ne donnent rien, il n'y a pas de générosité.
Mais alors, parce que c'est pas ça qu'on a envie de voir dans le foot, Marie. Est-ce que toi, quand tu faisais du Alpap, t'avais envie d'entendre les entraîneurs parler? Alors, Marie va faire un 360.
Mais moi, je suis pas dans un collectif. Mais moi, j'étais pas dans un collectif. C'est un sport collectif.
C'est pas les conférences.
Mais moi, je préfère largement voir des mecs qui tiennent leur équipe et qui représentent leur équipe et qui disent un petit peu à demi-mot, l'équipe, c'est moi. Parce que je n'en pouvais plus de ce foot où il n'y a plus d'équipe.
On a bien vu, l'équipe, c'est moi avec incapable de marquer un but, cette équipe en Ligue des Champions.
Marie, ça dépend à quel niveau tu veux évoluer. Quand tu es le PSG, que tu dépenses 800 millions par an, je suis désolé, mais tu dois pas dire en conférence de presse de Luis Enrique qui se permet de dire nous on construit, on va pas gagner cette année, mais c'est pour dans 2-3 ans.
Mais ça fait des années qu'ils essayent de faire avec des rostas et ça marche pas.
Ce qui me gonfle, c'est que le mec il se croit au-dessus des lois, alors qu'il sait très bien que pour gagner une Ligue Champion, t'as besoin d'avoir deux ou trois stars dans ton équipe.
Ça, c'est parce que, Luis Enrique te plaît pas, on l'a bien compris.
Non, c'est pas ça qui me plaît pas. C'est le discours.
Oui, le discours
c'est
ne
pas,
me plaît
c'est
pas.
C'est pas l'homme qui me
autant,
plaît pas.
Pour autant, et là, pour aller dans le sens de Marie, pour autant, il y a un PSG Marseille très incertain. On aura l'occasion d'en reparler.
Et ça
demain.
Fait combien de temps qu'on n'en a pas eu
très
un très incertain?
Aussi, parce qu'il y a deux entraîneurs.
Oui, mais oui.
Qui ont des idées. Qui ont des idées.
En partie.
De Zerbi fait bien jouer son équipe.
Ça, c'est pas passionnant pour vous, pour les fans de foot.
Vous trouvez
pas passionnant? On en est réduit à ça. Donc je veux dire, c'est quand même. Dommage. Alors que moi, j'ai envie de parler de jeu.
Mais David
te l'a dit, tu parles jamais de jeu.
Mais en conférence de presse, d'accord. Mais si tu regardes le match, tu vas parler de jeu. Comment De Zerbi va faire pour contrer Luis Enrique? Comment Luis Enrique doit faire justement pour gêner l'Olympique de Marseille?
Il a parlé que de tactique et de jeu. Moi, j'y connais pas grand chose, mais j'ai bien compris qu'il parlait de tactique.
Du jeu et pas les protagonistes. Je suis désolé.
Mais oui.
Aujourd'hui, les seuls qui parlent du jeu, c'est les journalistes, les spécialistes, les consultants, les anciens joueurs, mais pas les acteurs.
Bah, ils n'en parlent pas.
Ils en parlent entre eux,
mais pas publiquement. Pas pour le grand public.
Là où je te rejoins, David, c'est que c'est pas que les conférences de presse sont ennuyeuses. C'est qu'en fait, tu attends toujours une réponse qui arrive jamais. C'est-à-dire
jamais.
Que tu non mais c'est une frustration. Moi qui aime le football,
mais c'est pas la faute de Luis Enrique.
Ah bon?
Mais
si,
non, voilà où on en est rendu, mais c'est la résultante.
Mais tu te rends compte que lui, c'est Enrique, il a quand même osé dire à une journaliste, tu as écouté quand il a osé dire, mais moi, je réponds pas parce que vous ne comprendriez pas ma
tactique.
Donc, on en arrive là.
Il a pas dit ça, c'était une journaliste qui l'a dit ça, parce qu'elle était journaliste. C'est juste ça, on est d'accord.
Mais journaliste et fille, en plus.
Ah non.
Et si.
D'abord, c'est.
Si tu ne peux pas dire.
C'est grossier, c'est extrêmement prétentieux. et c'est inadapté, quoi. Je veux dire, c'est pas très intelligent que de dire ça, si ce n'est que de faire de la provocation. Et donc un jeu d'acting, mais ils le réussissent très bien, hein, parce que gardant de la frustration et nous collant dans la frustration, eh bien ils créent l'addiction.
Voilà. Et après chacun fait le choix. Hein. Moi j'aime pas Enrique. Je veux pas qu'il y a des gens qui aiment Luis Enrique qui est aimé par certains. Tant mieux. Mais moi je n'aime pas parce que c'est pas représentatif du entraîneur que je veux avoir, du discours que je veux avoir. Enfin, je sais pas. Voilà, je m'y reconnais pas du tout à travers ce
d'accord,
personnage.
D'accord. Là on parle du personnage en question, mais le fait que ce soit un peu les coachs qui reprennent la main et qui fassent exister leur équipe. Enfin, moi ça me choque pas plus que ça.
Les coachs ont toujours eu la main sur la façon de jouer de leur équipe.
Ce qu'on attend
sur un terrain, c'est de voir du spectacle, c'est de voir des renversements de situation, c'est de voir des actions fabuleuses, c'est de voir des buts inscrits. Moi c'est ça.
Alors il y a plus besoin de coach que
j'ai envie de voir demain soir un match dingue, quoi. Je m'en fous de leur
du combat tactique,
là.
Tu t'en fiches.
Mais le combat tactique, s'il me donne un beau spectacle, ouais, c'est intéressant. Donc mais le combat tactique en lui-même, autrement tu vas voir une partie d'échec et tu regardes la partie d'échec et tu prends ton pied en regardant une partie d'échec. Et ben va voir la série Rematch et tu vas te régaler sur Gary Kasparov et tu te régaleras plus qu'avec Luis Enrique. Il est beaucoup plus
amusant. Je me suis régalé.
Bon, on va écouter Roberto De Zerbi sur son homologue parisien en conférence de presse, c'était hier. David l'a un peu évoqué, mais effectivement, il dit beaucoup de louanges sur l'espagnol. Écoutez.
Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années, pas juste depuis qu'il est au PSG. Il a démontré que c'est un top coach. C'est évidemment une référence pour moi. Il a une matrice qui me plaît dans son jeu. Après, je ne le connais pas personnellement et je ne l'ai pas affronté. J'apprécie la personne, la façon dont il se comporte. J'ai beaucoup d'estime pour lui.
Et domani, je vais les crever.
voilà,
c'est ça à quoi il pense, évidemment.
Après, il y a une petite hype de Zerbi quand même aussi à Marseille. Ouais. Parce que
absolument.
L'équipe de Marseille, pour le coup, joue bien aussi grâce à de Zerbi.
Marseille a toujours un rapport, le côté passionnant
aussi du match.
Un rapport particulier à ses entraîneurs. Rappelez-vous la folie autour de Marcelo Bielsa qui s'asseyait sur sa glacière. Rappelez-vous de Raymond Gauthals qui était obligé de transiger avec Tapie pour fabriquer son équipe. Marseille a toujours une relation très particulière avec ses coachs. Marseille adore ses coachs ou les déteste. Et là, pour l'instant, De Zerbi, il a le soutien des supporters marseillais parce qu'il fait gagner son équipe. Et en tout cas, si demain il parvient à battre le PSG, chose qu'ils n'ont pas fait depuis 13 ans en championnat au Vélodrome, là, je peux vous dire qu'il y aura une statue pour De Zerbi sur la Canebière.
Et au final, il faut
faire un beau match.
Ça va dans le même sens que quand on refait un match ou quand on débriefe d'un match, on parle quand même très très souvent du coaching et beaucoup moins souvent de Mbappé aurait dû faire ci ou Vinicius aurait pu faire ça. On est quand même toujours très axé sur on organise toute notre analyse en fonction du coaching et du coach et de l'attaque. Je vous ai quand même plus souvent entendu remettre en question les choix de placement de joueurs ou offensif, défensif ou quoi que ce soit, plus que de savoir si Mbappé avait couru vite ou pas assez vite, tu vois.
Alors la réponse de nos auditeurs
ils ont été bons, mais je pense que c'est
Luis Enrique De Zerbi, les coachs véritables stars de cet OM passionnant, de cet OM PSG passionnant ou décevant. Et bien malheureusement, la team passionnant a perdu des points, 55%.
Tu
avais commencé à 57.
À 2 points, c'est énorme.
Ah oui, 2 points, c'est énorme.
Je pense que 2 points, c'est historique.
Ouais, c'est historique même. Là, c'est la branlée.
Dans le livre Guinness des records des branleux.
T'as fait voter toute ta famille.
C'est quoi, Christophe? C'est un hippo, non?
En piscine, on l'a négué.
Allez, n'importe quoi. Toujours devant quand même, à 55%. Dans un instant, les GG qui reviennent avec une punchline, les amis, de l'entraîneur des frères Lebrun qui ne veut pas voir le duel que tout le monde attend ce soir entre les deux frangins. Restez avec nous, on en parle dans un instant dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Regarde-moi bien dans le micro.
Les grandes gueules du sport.
J'en ai strictement rien à faire et ras-le-bol de l'entendre parler.
François Pinet.
Avec David Douillet, vous l'avez compris, Marie Martineau, Denis Charvet. Christophe Cessieux, c'était il y a quelques instants dans les grandes gueules du sport sur RMC. Christophe Cessieux qui d'ailleurs va piquer sa crise de la soixantaine dans un instant. ou pas. Et, on verra.
Mais alors, Denis, par exemple, qui a 65 ans,
il n'y a pas 62. Non,
il est fait pas, lui.
60, repartis donc, toi. Alors là.
Je suis encore plus jeune.
David, t'en es à combien, toi?
Ouais, 10 de moins, mais Denis, c'est beaucoup plus jeune que toi.
Voilà, Christophe. Mais ça lui fait vieux, Christophe. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu l'aurais vu rentrer dans le studio avec ta béquille et tout, c'est pas non plus la folie,
Denis,
là.
Denis, ouais, ouais. Moi, j'ai pas de béquille, je suis un peu mort.
Marcel Hirscher, son retour dans Paris, Christophe Cessieux, ça sera dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de la punchline GG sur RMC. Elle est signée Nathanaël Molin, le coach des frères Lebrun. C'était hier après la qualification d'Alexis, qui va donc retrouver son frère Félix ce soir à Montpellier en quart de finale du tournoi WTT de Montpellier. Écoutez la punchline.
RMC, la punchline GG.
C'est pas le moment qui m'intéresse, quoi. Voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je vis forcément super bien. Donc, pour moi, je pense vraiment que ça sera sans moi à la salle, quoi. Je vais les laisser faire leur truc, entre guillemets, si je peux dire, mon côté pseudo entraîneur professionnel, on va dire, du tennis de table, il s'arrête ce soir. Et mon côté affection, il s'arrête aussi ce soir. Voilà, et donc, je vais faire la journée que j'ai à faire demain, moi, et puis je reviendrai pour celui qui a gagné.
Nathanaël Molin au micro d'RMC, et qui ne sera donc pas à Montpellier ce soir, contrairement à RMC Sport, qui va retransmettre ce duel très attendu entre les deux frères chez eux à Montpellier. Ça sera en direct sur le Twitch d'RMC Sport et sur le YouTube d'RMC Sport. C'est donc gratuit pour voir ce duel au sommet. Vous allez pouvoir réagir, bien sûr, à ce qu'a dit Nathanaël Molin. Mais moi, je voulais vous poser cette question, les GG. Est-ce que le duel fratricide Félix-Alexis Lebrun va devenir l'une des plus grandes rivalités du sport français? Oui ou non, Christophe?
C'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que non.
Denis?
Ça peut le faire.
Marie?
Oui, moi je pense que oui.
David?
Oh. Ouais, je pense que oui.
Ça sera donc ce soir, 21h, ce quart de finale. On rappelle que Félix a 18 ans, il n'a jamais battu son frère, hein, Alexis, 21 ans, en 4 confrontations. Donc t'es un des seuls à dire non, Christophe.
Bah, d'abord, parce que je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer. Attendons de les voir déjà face à face ce soir pour une place en demi-finale de ce grand tournoi de Montpellier. Jusque-là, c'est vrai qu'ils se sont régulièrement joués, mais c'était à la maison, sur la table, dans le jardin, ou alors dans des petits tournois. La différence, c'est que depuis les Jeux, ils sont devenus des personnages important du sport français, et du coup c'est vrai que leur affrontement prend une dimension nouvelle. Après moi j'ai du mal à imaginer que cela devienne un des plus grands duels du sport français. Attendez, tout simplement parce que ce sont deux frangins, et que pour avoir une vraie rivalité, un vrai duel, il faut qu'il y ait un peu de haine, il faut que ce soit deux personnages complètement différents. Bon. Là, vous arrivez à différencier l'un de l'autre.
Franchement,
ils se ressemblent énormément.
Il faut que tu mettes tes lunettes, Christophe.
Ils sont issus du même milieu. Ils se détestent pas. Ils sont copains. Ils sont jamais aussi bons que lorsqu'ils jouent ensemble en double. Je suis désolé, mais moi, quand je pense à une grande rivalité dans le sport français, l'image qui me vient immédiatement, c'est Poulidor Anctil, par exemple, tu vois. Deux mecs qui étaient deux représentants de deux France différentes, des mecs qui se détestaient, qui se faisaient des coups pendables pendant toute l'année, et effectivement, ça a donné lieu à un duel de légende entre les deux. Dans l'histoire des rivalités entre frères, dans le sport français, moi j'ai deux exemples. L'exemple des frères Fourcade, en biathlon, il y en avait un, c'était le plus jeune, Simon, il était au top, il a vu son petit frère le passer, il n'y a pas eu de rivalité, il l'a écrasé, et ça a complètement déprimé Simon Fourcade, qui a eu vachement de mal à
s'en remettre. Mais son frère,
il était le numéro 1 français au moment où Martin débarque et le passe devant. Deuxième exemple, les frères Estanguet, Patrice et Tony. Pareil, Patrice, médaillé de bronze aux Jeux d'Atlanta en 1996. Et d'un seul coup, il voit revenir son petit frère. Et ils sont en duel, tous les deux, pour une place pour les Jeux de Sydney. Il y a une place pour un Français. Eh bien, c'est Tony qui bat le grand frère, qui est pourtant médaillé olympique. Oui, et le grand frère a très mal vécu ça. Il y a eu des disputes dans la famille, il y a eu vraiment un froid qui s'est instauré entre les deux, et il a fallu attendre plusieurs années que Patrice Estanguet prenne sa retraite pour que Tony vienne vers lui demande de le coacher.
Mais et là, ils ont été champions olympiques. Mais donc, ce que tu dis, ça va dans notre sens.
Mais il se déteste, quoi, pour que ce soit une vraie rivalité.
Mais moi, on en parlait cette semaine au Moscato Show, Vincent, Je crois pas, moi, quand on dit oui, ils s'entendent bien, non, ça n'existe pas. C'est pire, moi, je pense, pour des frères. C'est-à-dire, la rivalité, elle est réelle. Elle est pas malsaine, mais la compétition, elle est féroce entre eux. Mmh. Elle est féroce, ils vont jamais le dire. Mais au fond d'eux-mêmes, c'est comme tu es le père, lui, c'est tu es le frère. C'est pour ça que l'engouement qu'il y a aujourd'hui, que génère cette rivalité, c'est exceptionnel. Tu vois bien, moi, le week-end dernier, j'ai tout regardé. Mmh. Moi, j'aime le tennis de table depuis toujours, mais j'ai tout regardé. Je me suis régalé. Et là, ce soir, je vais regarder. C'est pour ça que, alors, on va voir avec le temps, parce qu'il faut que les deux joueurs restent au même niveau. C'est toujours pareil.
C'est ça. Eh oui, c'est un qui prend l'avantage.
Il y a quand même cette obligation de.
Justement.
Et là où il m'a bluffé, Alexis, c'est que j'ai vu un mec incroyable le week-end dernier. C'est-à-dire que tu l'attends pas, il arrive, il explose tout le monde et il gagne.
Et hier, il a encore battu le vice-champion olympique, le Suédois.
Et le gamin, il te dit après le match, j'ai jamais aussi bien joué de ma vie, il sait même pas pourquoi il a joué. Donc ouais. Ça veut dire qu'on ne connaît pas réellement le niveau d'Alexis, alors qu'on connaît déjà véritablement celui de Félix.
Félix est plus jeune que toi.
Marie après David. Hein.
Yes. Alors vous dites plein de choses vraies, évidemment. Vous ne dites pas que on est dans une adversité directe, c'est-à-dire que quand t'as les sœurs Walschlädt qui prennent le départ d'une piste, elles sont jamais ensemble sur les skis. Les frères Estanguet sont jamais retrouvés dans le même tracé au même moment.
Ah oui.
Là, il y a une petite différence avec le face à face. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir le vivre.
Ils sont pas non plus sur un ring de boxe.
Mais les coups sont rendus, tu vois, il y a quelque chose de
jamais affronté.
Et puis on se reconnaît dans le rapport fraternel, c'est quelque chose que l'on connaît dans les familles et tout, alors que les rivalités Merckx-Anquetil ou quoi, on pouvait les observer, mais c'est difficile de se les approprier, alors que la rivalité entre deux sœurs ou deux frères, c'est des choses au-delà du sport, c'est des sentiments qu'on connaît, il y a toujours ce truc de comparaison et en même temps, il y a beaucoup d'amour, t'es élevé sous le même toit, il y a des rapports avec les parents. Et j'en reviens à ce rapport avec le coach qui est presque aussi un rapport familial, quoi. C'est de dire là j'atteins mes limites parce que je peux pas choisir exactement. Et tout ça crée quand même une histoire et quelque chose d'assez fort, émouvant et
super histoire,
qui pourrait peut-être, c'est pour ça que je veux dire, peut-être créer le duel le plus incroyable qu'on ait jamais eu à vivre dans le sport français, tu vois, la plus grande rivalité, mais pour tout un tas de raisons, pas que le sport, quoi.
David.
Je suis d'accord avec Marie et je vais ajouter juste quelque chose d'autre. Je trouve que tout ce que tu décrivais dans le duel Anquetil Poulidor, le côté haine, le côté colère, le côté on truc, le côté on fait des vacheries, etc., etc., c'est précisément tout ce qui pollue la pureté de la compétition. Et là, je trouve que avec deux frères qui s'apprécie, qui
c'est ce qui passionnait
frère,
le pays, David,
etc.
aussi. Hein.
Ben oui,
ce qui passionne le pays,
c'est les trains qui arrivent en retard. Moi, ce qui me passionne, c'est les trains qui arrivent à l'heure. C'est deux choses différentes.
Et donc, là, tu dois pas être souvent passionné.
Le sein...
parce qu'on n'a pas beaucoup qui arrivent à l'heure.
C'est un petit message pour la SNCF, parce qu'on est toujours en retard. C'était assez habile, quand même. Voilà. Non, mais là, je trouve qu'on va rentrer dans le sein des saints. On va rentrer dans la pureté. On va rentrer dans le côté ultime de la compétition où dégager de tout ce qui peut polluer une rencontre, un duel. Là, on va arriver dans l'excellence du jeu. Et moi, c'est ce que j'attends de ces deux frères. C'est l'excellence, la pureté du jeu, complètement dégagée de tout ce qui parasite justement autour
mais la pureté
de la beauté
du jeu, c'est
la pureté. Et c'est pour ça que je pense que ça va être quelque chose de d'exceptionnel dans le sport français.
Oui, mais la pureté du jeu, c'est une chose. Mais après, la rivalité, ça en est une autre entre eux. C'est-à-dire que moi, quand je vois les frères Lebrun, notamment en finale du championnat, quand Alexis bat Félix et qu'il monte sur la table, je suis désolé. Il y a quand même,
du chambrage aussi.
Il y a du vrai chambrage. Quand il gagne le week-end dernier, souvenez-vous, il enlève son maillot, il montre son prénom. Il montre. Vous n'avez pas fait gaffe quand même. Il tend son maillot comme ça, il se met torse nu. Et il montre Alexis, je parle d'Alexis. Ouais. Donc il y a quand même une revanche.
Et tu penses qu'il fait ça pour montrer qu'il est Alexis
et pour dire moi j'existe et que moi je vais le faire aussi et qu'il faut parler de moi. Ouais. Moi j'en suis sûr et certain. Mais ça veut pas dire que c'est malsain.
C'est sûr qu'il a peut-être un peu mal vécu le fait que son frère soit starisé pendant les jeux
parce qu'il a eu la médaille de bronze.
Même en individuel. On a eu ensemble.
Oui mais en individuel, c'est Félix qui a fait la meilleure résultat.
En individuel, il a eu la médaille de bronze.
Non mais pour qu'il y ait vraiment une rivalité, qu'elle s'instaure, cette rivalité, il faut que tous les deux progressent au même niveau.
Il faut qu'ils soient au même niveau.
Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne l'avantage sur l'autre.
Mais tu sens qu'ils ne sont pas loin du même niveau quand même.
Ouais, justement, on va le voir. Vas-y, David.
Ils sont en train de vivre ensemble, ils nous le prouvent parce qu'ils se rencontrent là tous les deux. Il y a une émulation incroyable, plus belle émulation qu'on puisse comprendre à exister. C'est extraordinaire au sein d'une même famille.
Génial.
On a les deux meilleurs Français d'une discipline.
C'est une histoire incroyable.
Bien sûr, ils sont peut-être en passe de devenir. De faire partie des meilleurs mondiaux et peut-être un jour ce sera peut-être les deux meilleurs mondiaux, je l'espère, je le souhaite. Ce serait un truc incroyable, ce qui prouverait que l'émulation c'est la meilleure recette pour que des gens touchent l'excellence.
Alors je voulais vous faire écouter Alexis Lebrun, justement tu parlais de Nietzsche Chambrage, il peut y en avoir ce soir 21h en fonction de qui va gagner. Ils ont déjà préparé leur petit chambrage là, chacun de leur côté. Écoutez Alexis, c'était hier.
Bah oui, on va se chambrer. Je sais que Féfé l'a déjà préparé 14 milliards de célébrations. Donc moi, je suis trop content et j'espère qu'il va pas pouvoir les utiliser. Et je vais réfléchir à deux trois petits trucs aussi pour le chambrer. Mais ouais, franchement, on en a déjà parlé plein de fois de comment il célébrerait quand il me bat, de comment je célébrerais. Donc ouais, on en rigole et je pense que ça va être un beau moment quoi qu'il se passe.
Voilà, Alexis Lebrun, Félix Lebrun, duel très attendu ce soir 21h. Je pense qu'il va y avoir du monde pour regarder tout ça. En plus, c'est hyper télégénique. Vous allez voir ça sur Twitch, sur RMC Sport, le Twitch d'RMC Sport et le YouTube d'RMC Sport. Mais vraiment, c'est vraiment sympa à regarder. Ça dure pas longtemps.
Et tu vas sur l'application, c'est très simple.
T'es sur Twitch.
Non, je suis pas sur Twitter. Justement, c'est pour ça que je disais ça. Sur l'application RMC, tu regardes, il y a un petit écran comme ça, t'appuies.
Tu regardes le aussi, c'est super pratique.
C'est super pratique. Allez-y, non, mais les auditeurs qui nous écoutent, c'est très très simple.
Et très bien commenté par les équipes d'RMC Sport.
C'est bonne pêche, bonne
ambiance, super.
Ils connaissent bien, franchement, très intéressant.
Et sur Twitch aussi, Chris.
J'y suis allé hier.
Pour
la première fois.
Voilà, là, Christophe Séché sur Twitch.
J'avais été.
On change, hein.
Moi, j'ai 62 ans, je sais pas sur Twitch. Mais bon, ça marche le reste.
Non, mais ça, t'as pas besoin d'être sur Twitch.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, ce que je fais.
Justement, tiens, il a pas encore 60 ans, il est sur Twitch, il va peut-être piquer sa crise dans un instant. Christophe Séché, c'est dans un instant, dans les grandes gueules du sport sur RMC. Restez avec nous, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h47 sur RMC. Vous écoutez les grandes gueules du sport ce matin, composé de Marie Martineau, David Douillet, Denis Charvet, Christophe Sessieux. Depuis 9h, nos grandes gueules sont en pleine forme et dans un instant, elles vont passer la seconde. Elles vont parler du nouveau cadre de vie imposé par Fabien Galthié aux joueurs de l'équipe de France de rugby. Les troisièmes mi-temps seront plus contrôlés pour éviter les dérapages et les scandales. Est-ce que cette charte va changer quelque chose? Nos GG ne sont pas d'accord. Ce sera dans 15 minutes. Mais d'abord, c'est l'heure de notre nouvelle rue de briques. Il a 60 ans le 20 avril. Il est bélier, a priori. C'est ça, t'es bélier, hein, Christophe?
Non, c'est taureau.
Un taureau. Ah non, le 20 avril, c'est taureau, d'accord.
Non, non.
Ça m'étonne pas. Il pique sa crise dans les GG, vous le savez, à cette heure-là.
RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul de tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
Alors. Christophe Séché, la crise de la soixantaine, qui évoque le sujet de son choix. Voilà, vous nous dites ensuite si c'est la crise de la soixantaine ou au contraire s'il a raison, hein, Christophe. Alors que la saison de ski s'ouvre donc ce week-end à Zolden, on va suivre ça sur RMC. Tu nous parles d'une légende du ski, Marcel Hirscher.
Oui, alors vous savez qu'on est même pas encore en novembre et pourtant on sent bien dans l'air, oui, winter is coming. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier, c'est pas le plus rigolo, c'est le retour de l'heure d'hiver demain matin. Bon, vous me direz, on va roublier une heure de plus, c'est pas mal quand on bosse le dimanche matin. Mais d'un autre côté, demain soir à 17h30, il fera nuit et ça, c'est la déprime assurée. On en a pour 6 mois. Heureusement, avec le retour de l'hiver, il y a aussi des choses qui me filent la patate. Et oui, parce que qui dit hiver dit neige, et qui dit neige dit ski. Et moi, j'adore ça, voir dévaler les trompe-la-mort sur deux planches dans des décors somptueux. Et ça commence d'ailleurs sérieusement à me chatouiller sous les spatules. Une saison de Coupe du Monde qui débute donc ce matin pour les filles sur le glacier de Solden en Autriche, et qui verra demain les garçons faire à leur tour leur comeback avec comme énorme kirsch, la cerise sur le gâteau autrichien, le retour d'un géant du ski, peut-être même même le plus grand champion que l'Alpin ait connu, un certain Marcel Hirscher. À 35 ans et après 5 années d'une retraite paisible au pied des glaciers autrichiens, celui qui a remporté 8 globes de cristal, 2 titres olympiques et 7 titres mondiaux tente un incroyable comeback avec au pied les skis de la marque qu'il a créée. Ça motive, évidemment. Et ça, eh bien, c'est l'assurance d'un formidable coup de projecteur sur une discipline qui, à l'heure du réchauffement climatique, est un petit peu en perte de vitesse et qui a donc besoin d'icônes pour retrouver de son lustre. Alors, les dirigeants de la FIS ont déroulé un tapis rouge, sinon doré, sous les planches de Marcel. Non seulement il a été autorisé à changer de nationalité sportive en délaissant l'Autriche pour les Pays-Bas, le pays de sa maman, Pays-Bas bien connu pour ses pistes noires et où la sélection pour disputer les courses est évidemment moins prononcée qu'en Autriche, le pays du ski roi. Et comme à la Fédération internationale, on adore vraiment, mais on l'adore, ce Hirscher, eh bien, on l'a également façonné un règlement aux petits oignons. Dans cette discipline où l'ordre des départs est capital pour espérer obtenir de bons résultats et où les skieurs mettent souvent des années avant de tirer un dossard acceptable, on a accordé à la légende un passe-droit exceptionnel en lui octroyant pour toute la saison et dans toutes les épreuves, que ce soit en descente, en super-G, en géant, en slalom, le dossard 31 en première manche, soit juste derrière les cadors actuels de la discipline. Et ça, évidemment, ça fait grincer les dents de certains skieurs, notamment ceux qui se sont blessés ces derniers mois et qui, eux, n'ont droit qu'à quelques courses protégées, 3 en tout, avant de repartir du fond de la classe. Ce sera le cas cette saison d'Alexis Pinturo, blessé, et qui lui aussi est un cadre du ski mondial, mais qui n'aura pas le droit à toute la saison. Il aura droit à 3 courses avant de repartir du fond de la classe. Ce sera le cas également de Victor Mufajandé. Pintu, qui a longtemps été le rival d'Hirscher, pourrait donc, d'ici le mois de décembre, s'il n'est pas compétitif dès son retour, être obligé de s'élancer avec le dossard 70 ou 80, alors que dans le même temps, Hirscher, le retraité protégé de la FIS, pourra lui fumer la pipe avec son dossard 31 et jouer toute la saison avec les meilleurs, même s'il termine 5 ou 6 secondes derrière eux. C'est un peu comme si demain à Wimbledon, ou pour tous les tournois de la saison, on octroyait à Roger Federer ou à Bjorn Borg, pourquoi pas, un statut de tête de série, et que dans le même temps on obligeait Rafael Nadal, blessé, à affronter la tête de série numéro 1 à Roland Garros dès le premier tour. Ça a d'ailleurs été le cas au printemps dernier. Alors moi, je veux bien qu'on favorise les légendes, je veux bien qu'on essaye de faire du buzz autour de ça, comme on en a fait par exemple en basket avec LeBron James et son frère et son fils pardon cette semaine. Je veux bien qu'on les aide à retrouver de manière un peu artificielle une partie de leur talent. Il en va de l'intérêt pour cette discipline, mais à ce moment-là, il faudrait aussi permettre aux athlètes blessés, et ils sont nombreux dans cette discipline casse-bonhomme et casse-bonne-femme, à bénéficier d'un classement protégé durant toute une saison, faute de quoi ce n'est plus une compétition impartiale à laquelle nous auront droit, mais une exhibition qui, pour le coup, mériterait vraiment son surnom de grand cirque blanc.
Alors, est-ce que Christophe Cessieux a piqué sa crise de la soixantaine, là, il est un peu ronchon parce qu'on avantage Hirscher, ou alors est-ce que il a raison, Marie?
Un petit peu des deux.
Ah bon?
Oui, alors faut que je développe.
Bah oui.
Moi, ça me choque pas du tout qu'il y ait cette loi. On l'a pas sortie exprès pour Hirscher. Hein. Ah, c'est une loi qui existe, qui dit que quand tu as été champion du monde ou médaille olympique et que tu reviens après une pause dans une carrière, tu as ce dossard 31. Je serais plus d'avis à ce qu'on travaille sur le statut des blessés, et là je le rejoins complètement, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des situations comme a pu connaître Victor Mufajandé, à repartir avec des dossards 60 alors que c'était des mecs qui trustaient les podiums avant d'être blessés. C'est pas le cas non plus dans le ski accro, mes disciplines d'origine, où par exemple au X Games, si tu te blesses, tu peux être certain que l'année d'après tu ne seras pas invité parce que tu as dégringolé dans les classements et qu'ils vont s'arrêter à leur façon habituelle de qualifier les gens qui partent du classement mondial, et c'est terrible. Alors ça fout les nerfs, hein, et ça participe du fait de te réentraîner dur, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même hardcore, parce que c'est une carrière dans le ski comme dans plein d'autres sports, c'est quand même relativement court, et arriver au sommet dans les 15 meilleurs en ski alpin, ça prend des années. Et donc ne pas pouvoir y rester parce que tu t'es fait un croisé, qui est la blessure classique que tout le monde se fait, c'est sûr.
Mais
que c'est,
là on est quasiment tous d'accord. Après, c'est sur le côté Hirscher, il revient après 5 ans et il a un dossard préférentiel. Voilà, c'est ça qui gêne un petit peu. Mais moi, je comprends
le buzz autour
de lui. Côté, je sais pas ce qu'en pense Denis ou David, mais moi, c'est une légende du sport. Ça fait du bien au sport.
C'est génial. C'est génial pour le ski. Voilà. Après, il y a pas photo.
Les gens, ils vont regarder aussi pour lui.
On va parler du ski comme jamais cet hiver, grâce à lui. C'est un coup de projecteur extraordinaire. Puis ça a tellement été un phénomène. Ah oui. Donc moi je pense qu'il y a des cas à part comme ça.
Je crois qu'il faudrait filer une wildcard à Jean-Claude Killy, lui aussi a été champion olympique et champion olympique. Mais il est champion du monde. Et pourquoi pas, quoi.
François, il y a bien les wildcard qui en tennis, je trouve que c'est super. Voilà. Et je crois que c'est une main tendue sur des mecs qui ont beaucoup donné dans leur sport et qui ont enrichi leur sport, qui ont fait du sport. Ben, si, c'est
la vérité. Et puis, attends, il va falloir qu'il soit au niveau de ce dossard 31, hein, sans quoi ça va vite grincer des dents. Et puis, même pour lui, je veux dire, ça serait vite complètement désastreux. Mais moi, je doute pas que ça va le faire, comme ça le fera pour Pintu aussi, qui va se servir de ces trois possibilités d'être dans les dossards 30 et qui reviendra vite en haut du classement.
Et l'homme qui a une piste à son nom, David Douillet, il en pense quoi de ça? Ah, David. David? Ouais, non, mais David, il a disparu. Je pense qu'il est parti sur la piste de Zolden.
Non, je suis là,
Ah oui, super.
J'avais coupé mon micro pour éternuer tranquillement.
Ah bah, c'est mieux. Merci.
Voilà, c'est mieux quand même pour vos oreilles. Non, je disais que je suis assez modeste là-dessus, mais je trouve ça toujours les tu vois, le réchauffé. Pour moi, c'est du réchauffé. Tu vois, quand tu t'en vas, quoi. C'est bon.
Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, j'en ai marre.
Mais la vie, elle est pas faite. C'est pas un long
mais
fleuve
non, mais
tranquille.
Tu sais pourquoi il revient, Marie? Alors, il revient pour vendre ses skis. Il revient pas pour
exactement. Mais c'est exactement ce que je pense.
On verra ça demain,
Christophe,
d'ailleurs. Oui.
Attends, je voulais juste finir. C'est exactement ce que je pense. Je pense qu'il se paye un énorme coup de pub pour vendre ses skis. Et alors, il n'a pas tort, puisque ça marche avec la complicité de la Fédération Internationale. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est par rapport aux autres, quoi, tu vois.
Okay.
C'est pas hyper sympa, c'est se moquer un petit peu de la compète, de la pureté de la compétition. Alors, vous allez me dire, t'es un vieux con avec ta pureté de compétition.
Et pourtant, t'as pas encore.
Ouais, mais c'est important.
La sortie d'Alexis Pinturo, elle est pas envers Hirscher. Il veut pas que Hirscher n'ait pas de dossier. Il veut juste que les blessés soient mieux traités. Ça n'a rien à voir.
Léna Marzac.
Ça, c'est un autre sujet.
Et à Zolden, justement, rapidement, Léna, le point sur ce premier géant de la saison à Zolden en Autriche. Pour les femmes.
Et Michaela Schifrin, l'américaine, est toujours en tête. Derrière elle, on retrouve la néo-zélandaise Alice Robinson et en troisième position, l'italienne Federica Brignone à 40 centièmes de retard de l'américaine. Côté français, un petit point parce que Clara Direz est 17e. Les conditions de la piste se sont un petit peu dégradées à son passage parce qu'il y a du brouillard qui est arrivé. Et puis dans quelques dossards, on aura dans 44, on aura la jeune française June Brand qui prendra son premier départ en Coupe du Monde.
Léna, elle est à combien de en temps, elle est à combien des premières?
Clara Direz?
Oui.
2,54. 2 secondes 54.
Ah ouais, okay. Quand même.
Merci.
Il y a un gros gap.
Évidemment, Zolden, avec toi, Léna. Et d'ailleurs, demain, on suivra aussi avec toi, Marcel Hirscher, notamment dans ce géant de Zolden, premier géant de la saison. Restez avec nous, on vient tout de suite pour parler rugby. Les troisièmes mi-temps, c'est peut-être fini, ce que vous y croyez. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Prise, Denis.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.